Les colloques du Collège de France.
Bon, merci beaucoup Pierre-Michel pour ton introduction. Donc je vais vous parler un peu d'éducation, innovation et croissance. Ma contribution en disant à l'économie de la croissance, c'est de développer un modèle qu'on appelle le modèle schumpeterien, que j'ai développé avec un collègue, Peter Howitt, en 1987. Et c'est un modèle de croissance économique où la croissance de long terme résulte de l'innovation cumulative. Chaque innovateur innove par rapport aux innovations précédentes. La deuxième caractéristique, c'est que l'innovation résulte d'investissements, notamment de R&D, qui sont le fait d'entrepreneurs qui sont motivés par la recherche de rentes d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes. Donc au cœur de ce paradigme, il y a une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être sujets à la destruction créatrice. Voilà. Alors il y a une autre idée qui émerge, c'est qu'il y a plusieurs façons d'augmenter la productivité. L'une, c'est par l'innovation à la frontière. Vous innovez quand il n'y a rien devant vous et vous essayez d'améliorer sur ce qui a déjà été fait. Mais il y a aussi la croissance par l'imitation. Vous êtes en dessous de la frontière technologique et vous innovez et vous essayez de rattraper la frontière technologique dans votre domaine. Et évidemment, quand un pays est très loin de la frontière technologique ou un secteur, l'imitation est déjà une bonne manière de croître, parce que je fais un bond en avant considérable quand je rattrape la frontière technologique. Si je suis déjà à la frontière technologique, c'est surtout l'innovation à la frontière qui va être la source de croissance. Or, il se trouve que les institutions qui favorisent l'imitation ne sont pas les mêmes exactement que les institutions qui favorisent l'innovation à la frontière. Nous allons le voir dans un moment quand on parle d'éducation. D'accord. Alors, juste quelques évolutions historiques pour vous mettre un peu dans le bain. Donc déjà, on sait que la part de la population de plus de 15 ans lettrée a augmenté beaucoup depuis 1800 et avec une grande accélération à partir du milieu du XXe siècle. D'accord ? Vous voyez en bleu la fraction de la population mondiale qui est lettrée et la fraction illettrée qui est en rose. On peut regarder ici aussi les convergences entre 1960 et 2000 dans les pays en développement, c'est surtout le passage de la non-scolarisation à la scolarisation. Vous voyez que le pourcentage de gens qui n'ont pas été à l'école est fortement réduit entre 60 et 2000. Et le pourcentage, il y a aussi une augmentation du pourcentage. Et par contre, augmente beaucoup le pourcentage des individus qui terminent l'éducation primaire. D'accord ? Mais si on regarde dans les pays avancés, c'est surtout au niveau de l'éducation secondaire et supérieure que les changements ont lieu, parce que déjà en 60, la plupart des individus sont lettrés et ont terminé l'éducation primaire dans les pays développés. Et là, c'est surtout terminer l'éducation secondaire et s'engager dans l'éducation tertiaire. D'accord. Juste simplement pour vous donner un peu de théorie. Donc l'idée, c'est que je vais aller du très macro au micro. Et puis, je vais faire du dialogue entre la théorie et l'empirique. D'accord. Donc d'abord, il y a l'idée qu'il y avait quelqu'un que... Robert Lucas et Gary Becker sont des noms incontournables quand on veut parler de croissance et d'éducation. Mais l'idée qu'ils avaient, c'était que le capital humain, notamment le niveau d'éducation, c'est un facteur de production. En gros, il y a le capital physique, il y a votre force de travail physique, et puis il y a ce qui augmente la productivité de votre force de travail. Et ça peut être l'éducation et la santé. Et ça, ils appellent ça, ils traitent ça comme un facteur de production, ils appellent ça du capital humain. Et l'idée, c'est de dire, plus j'ai du capital humain, plus ma productivité augmente, plus le PIB par tête augmente. D'accord ? Donc la prédiction de leur théorie à eux, c'est que le PIB par tête est corrélé avec le niveau de capital humain, donc la croissance du PIB est corrélée avec l'augmentation du capital humain. Et là, on voit que les pays qui ont un niveau de capital humain, un niveau de capital, des qui ont une scolarité plus longue, eh bien, sont aussi les pays qui ont un PIB par tête plus grand. Mais là, on pourrait dire que la causalité est dans les deux sens. Quand j'ai mieux éduqué, ça veut dire plus de PIB par tête, mais en même temps, si je suis plus riche, je peux m'offrir davantage d'éducation. Donc ça, c'est simplement un scatter plot, comme on dit en anglais, qui suggère une corrélation. Mais pour le moment, ça ne vous dit rien sur la causalité, dans quelle direction va la causalité entre éducation et PIB par tête, d'accord ? Ensuite, il y a une autre approche de Nelson Phelps. Et là, l'idée, c'est de dire, le capital humain, ça vous permet de rattraper la frontière technologique plus vite. Si vous avez un pays où les gens sont mieux éduqués en moyenne, eh bien, vous avez une meilleure capacité d'absorber la technologie frontière et donc de croître. Et ça, c'est intéressant parce que cette approche-là prédit que la croissance du PIB par tête dépend du stock de capital humain. La première approche, je vous disais que la croissance du PIB par tête dépendait de la croissance du capital. Là, ça vous dit que la croissance dépend du stock. Si j'ai un meilleur stock de capital humain, un niveau éducatif plus grand en général, eh bien, j'ai une meilleure capacité d'absorption des technologies frontières et donc je peux croître plus vite. Et là également, on voit par exemple sur ce diagramme, eh bien que le PIB par tête, la croissance du PIB par tête est reliée au niveau de test score, au niveau éducatif, c'est-à-dire plus vous avez des tests éducatifs élevés, plus vous avez une croissance du PIB par tête. Voilà, c'est une des mesures. Ça pourrait être aussi le nombre d'années de scolarisation. Et là, c'est la relation est entre le stock de capital humain et la croissance. Je peux croître mieux quand j'ai une population mieux éduquée. Les Chinois, par exemple, ont réussi certainement le fait qu'il y a l'éducation en Chine et qu'il y a une éducation de masse. Ça a certainement été un des facteurs qui a permis le rattrapage chinois. Voilà. Donc ça, c'est le. Alors il y a deux approches, Lucas Becker et Nelson Phelps. Et en fait, dans la réalité, les deux sont importants. C'est à la fois le stock de capital humain et la croissance du capital humain qui sont des facteurs de croissance. Voilà. Kruger et Linda l'ont montré. Alors, je voudrais maintenant parler, j'ai parlé d'éducation en général, et je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller du très macro au plus micro. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que l'éducation, c'est qu'il y a l'éducation primaire, secondaire et supérieure. Je vous ai dit tout à l'heure que la croissance de la productivité résulte à la fois de l'imitation et de l'innovation, et que plus un pays est avancé, plus c'est l'innovation qui est le moteur de croissance. Or, il se trouve que l'éducation primaire secondaire, c'est surtout important pour limiter, c'est important pour tout. Mais si vous êtes occupé à imiter, c'est moins grave si vous n'avez pas des programmes doctoraux. C'est important de tout avoir. Mais la priorité, ça doit être l'éducation primaire, secondaire et de bons programmes de licence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout avoir. Si vous êtes un pays qui est déjà très avancé et dont la croissance repose surtout sur l'éducation, sur l'innovation à la frontière, là, l'éducation supérieure et avoir de bonnes écoles doctorales devient de plus en plus important. Et donc, on voit bien déjà le lien. Au lieu de dire l'éducation, je commence à séparer entre éducation primaire secondaire et éducation supérieure. Et donc, plus un pays ou une région est proche de la frontière technologique, eh bien, plus c'est l'éducation supérieure, et notamment l'éducation doctorale, qui devient un moteur de croissance. Alors là, déjà, ça, c'est un tableau. Mais tout ce qu'il faut regarder, proximity, c'est à quel point vous êtes près de la frontière technologique, à quel point un pays est près du PIB par tête américain, qui est le plus élevé. Et puis, fraction, c'est la fraction de la population qui a suivi une éducation supérieure. Et vous voyez dans la troisième ligne qu'il y a une interaction positive entre plus vous êtes un pays proche de la frontière, plus c'est important pour la croissance du PIB par tête d'avoir des gens qui vont jusqu'à l'université et qui suivent un programme doctoral, etc. Et alors ça, c'est vrai entre pays, c'est vrai aussi à l'intérieur des États-Unis. Quand je regardais à gauche, c'est les États américains qui sont proches de la frontière technologique américaine, c'est-à-dire du niveau maximum de PIB par tête, qui est la Californie ou le Massachusetts. Plus vous êtes un État américain proche de la frontière, plus c'est l'éducation graduate, c'est-à-dire les programmes de PhD, ce qu'on appelle research education, qui est un moteur de croissance. Par contre, si vous êtes un État américain du Sud ou loin de la frontière technologique, c'est déjà très important d'avoir un primaire, secondaire et des bons programmes undergraduate. Vous voyez donc déjà, il y a un lien entre si vous êtes près ou loin de la frontière et jusqu'à quel point vous devez aller vers l'éducation doctorale. Et alors ce qui est important également, je l'avais mis là au tableau, mais évidemment j'ai fait d'autres études en montrant que la performance des universités, ça dépend du financement des universités, mais de la gouvernance. C'est important, si je veux être un pays innovant, d'avoir non seulement une éducation supérieure bien financée, mais également bien gouvernée. Et quand il y a eu le rapport pour Pécresse sur les IDEX, on avait beaucoup travaillé, on s'est rendu compte que le financement, c'est important, mais également l'autonomie, et c'est pour ça qu'il y a eu la réforme de l'autonomie des universités. Il faut à la fois avoir des moyens et la capacité d'utiliser ces moyens pour embaucher, pour recruter, et donc c'est vraiment la combinaison, parce que de l'argent avec une mauvaise gouvernance, ça ne donne rien. Il faut l'argent avec une bonne gouvernance, et notamment la combinaison finance, accès au financement et autonomie des universités, ça c'est la bonne combinaison qui vous donne des universités performantes et donc un moteur de croissance dans un pays avancé. Je voulais vous parler un petit peu de l'éducation dans la relation entre innovation et inégalité. Alors, souvenez-vous que je suis parti d'un truc très macro. J'ai dit d'abord l'éducation et la croissance d'un pays. Ensuite, j'ai commencé un peu à désagréger en disant oui, mais l'éducation, il y a l'éducation supérieure et l'éducation primaire secondaire. Et il faut toujours l'éducation primaire secondaire, mais l'éducation, l'éducation au niveau doctoral devient de plus en plus important à mesure que vous êtes un pays plus développé. Je veux parler de la relation entre l'innovation et les inégalités. Que tout le monde connaît cette courbe, Piketty, Saez, Atkinson, qui montre que la part du top 1%, la part des revenus des 1% qui gagnent le plus ou des 0,1% qui gagnent le plus aux États-Unis a augmenté depuis les années 80. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays développés. Donc ça, c'est des travaux très importants et incontestables. Maintenant, c'est intéressant de se demander quels sont les moteurs qu'est-ce qui a fait croître, qu'est-ce qui a augmenté la part de revenus de ceux qui gagnent le plus. L'innovation est un moteur. L'innovation, en fait, augmente les inégalités en haut de la distribution. Pourquoi ? Parce que quand vous innovez, vous avez des rentes d'innovation, comme je l'ai dit au début, et ces rentes d'innovation vous permettent d'aller en haut. Vous voyez, donc, Monsieur Skype est très riche parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Bill Gates est très riche parce qu'il a inventé Microsoft. Donc, l'innovation, quand elle marche bien, vous permet de devenir, de monter tout en haut de la distribution des revenus. Mais l'innovation augmente aussi la mobilité sociale parce que la destruction créatrice, vous vous souvenez que je vous ai dit, les nouvelles innovations remplacent les anciennes. Ça crée de la mobilité sociale. Et également, les entreprises innovantes créent beaucoup plus de ce qu'on appelle des bons jobs, des bons emplois, des emplois qualifiants avec des perspectives d'augmentation de salaire. Donc l'innovation est liée à la mobilité sociale. Alors elle a ces deux effets contradictoires, l'innovation sur les inégalités. D'un côté, elle augmente les inégalités en haut de la distribution, mais de l'autre, elle augmente la mobilité sociale. Donc si vous regardez l'effet de l'innovation sur les inégalités globales, vous ne voyez pas d'effet. Globalement, elle n'augmente pas. C'est exactement ce qui se passe ici. Là, je regarde, ça c'est sur des données américaines, des données désagrégées américaines, et je regarde les États américains à différentes périodes, et je peux savoir sur l'axe horizontal, plus je vais à droite, plus c'est des États innovants, qui brevettent beaucoup, d'accord ? Et puis, je regarde des mesures d'inégalité en verticale. Et d'abord, je regarde la courbe continue. Elle vous dit que plus un État américain est actif en innovation, plus la part des revenus du top 1% est élevée. Donc on montre que cet effet est causal dans ce travail joint avec mes co-auteurs qui sont mentionnés là. On montre qu'en fait, il y a une causalité de l'innovation vers la part du revenu de ceux qui gagnent le plus. Donc l'innovation est une des raisons, c'est pas la seule. L'autre raison peut être le lobbying. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière de devenir riche. Une bonne manière, c'est d'innover. Et la manière moins bonne, c'est de faire, par exemple, de mettre des barrières à l'entrée, de faire du mauvais lobbying. Ça, c'est aussi une façon de devenir riche, d'accord ? Mais l'innovation est une manière. Et alors, l'innovation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'augmente pas le Gini, la courbe en pointillé. C'est une mesure globale d'inégalité, c'est-à-dire à quel point, globalement, la société est loin de l'égalité parfaite. Vous voyez que l'innovation n'augmente pas l'inégalité globale. Donc c'est une bonne source d'inégalité. L'innovation augmente l'inégalité en haut, mais comme elle génère aussi de la mobilité sociale, l'innovation n'augmente pas les inégalités globales. D'accord ? Et là, on voit sur là, c'est entre zone d'emploi américaine, mais si vous deviez faire une ligne droite, et surtout tout en haut, vous voyez que les endroits aux États-Unis qui ont le plus d'innovation sont des endroits où la mobilité sociale est très élevée. Donc on voit qu'il y a c'est intéressant parce que c'est une bonne source d'inégalité, l'innovation. Il y a les bonnes rentes et les mauvaises rentes. Il y a les bonnes sources et les mauvaises sources d'inégalité. Le lobbying, la plupart du lobbying est une mauvaise source. Ça permet à des gens, justement, qui ont innové hier, de se maintenir et de rester riches en empêchant l'innovation des autres. Ça, c'est une mauvaise source d'inégalité. La bonne source d'inégalité, c'est l'innovation. Alors pourquoi maintenant je reviens à l'éducation? Et on peut dire, l'innovation, du coup, c'est formidable. C'est plutôt quelque chose de bien, ça vous donne de la croissance, ça vous donne de la mobilité sociale. C'est vrai que ça augmente les inégalités en haut de la distribution des revenus, mais ça n'augmente pas l'inégalité globale. Donc, je prends problème, est-ce que tout le monde peut devenir innovateur? Et là, c'est là que le bât blesse. Parce que, regardez, ça, c'est des travaux qui ont été faits aux États-Unis. Donc, la courbe de gauche vous représente, en abscisse, c'est le revenu des parents. Est-ce que le revenu des parents est tout en haut de la distribution ou tout en bas? Et en vertical, en ordonnée, c'est la probabilité d'innover. Et vous voyez que vous avez une courbe en J, c'est-à-dire que si vous avez des parents tout en haut de la distribution des revenus aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances d'être un innovateur. Donc, tout le monde n'a pas le même accès aux innovateurs. Ça, la courbe de gauche, c'est sur données récentes. La courbe de droite, c'est sur des données historiques américaines. Et c'est toujours pareil, on trouve toujours cette courbe en J. Alors ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des Einstein perdus. Il y a des enfants très intelligents, mais ils ne sont pas nés de parents riches, de parents qui gagnent très bien. Et ils ont du coup beaucoup moins de chances de devenir innovateurs. Donc on perd énormément de potentiel d'innovation. D'accord ? Je reviens beaucoup sur cette idée des Einstein perdus. Alors, ce qui a été une énigme pour nous, c'est ce que j'appelle l'énigme finlandaise. C'est que, en fait, je pensais qu'en Finlande, je me disais, en Finlande, eh bien, c'est un système éducatif qui donne de très bonnes performances PISA, de très bons tests, qui est accessible à tout le monde et qui est gratuite. Donc, moi, je me disais, en Finlande, au lieu d'avoir une courbe en J, je devrais avoir une courbe plate. La probabilité d'innover ne devrait pas dépendre du revenu des parents. Or, qu'est-ce qu'on trouve ? La même chose en Finlande. Comment ça se fait qu'en Finlande, il y ait la même courbe en J, d'accord ? Ça, c'est les parents, le revenu des parents, ça, c'est le revenu du papa, d'accord ? Toujours cette courbe en J. Et donc, on a la troisième courbe qui est à droite pour la Finlande, qui est très semblable à celle des États-Unis. Et ça, pour nous, c'était une énigme. On s'est dit, mais pourquoi ? D'accord ? Et pourquoi c'est étonnant ? Parce que, regardez, ici, je représente en abscisse le niveau d'inégalité et en ordonnée, une mesure inverse de la mobilité sociale. Donc plus je vais à droite, plus j'ai de l'inégalité globale, plus j'ai mon Gini est grand, plus je monte, moins j'ai de mobilité sociale, plus le revenu des enfants est corrélé au revenu des parents. Vous voyez que la Finlande est tout en bas. En Finlande, il y a une mobilité sociale très forte, et il y a très peu d'inégalité globale. Les États-Unis, c'est tout en haut à droite, il y a beaucoup d'inégalité globale, et très peu de mobilité, et beaucoup moins de mobilité sociale. Donc, on me dit comment des pays aussi différents peuvent avoir une relation aussi semblable entre le revenu des parents et la probabilité d'innover. C'est ça l'énigme finlandaise pour moi. Alors, avec des collègues, on a regardé de près, on a eu accès à des données individuelles qui informent sur les revenus, le niveau d'éducation, etc., des données de brevets. Et des résultats aux tests de QI. Alors, ce qu'ils font, c'est que, vous savez, le service militaire est obligatoire en Finlande pour les hommes, et ils font des tests de QI. Mais on peut aussi regarder des test scores en secondaire, d'accord ? Mais ça, c'est une mesure intéressante. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, la courbe en bleu, donc on construit à partir de ça, on regarde, on fait des régressions statistiques, où on régresse la probabilité d'innover sur, eh bien, d'abord, le revenu des parents. Alors là, c'est une courbe qui revient d'une régression. Et vous voyez que la courbe en bleu reproduit ce que j'avais avant. Vous voyez le J à nouveau. Mais après, ce que je fais, c'est que je contrôle pour l'éducation des parents. Je dis, voilà, je vais maintenant tenir compte, je vais faire abstraction de l'éducation des parents. Et à ce moment, vous voyez que la courbe en J s'aplatit. C'est-à-dire qu'en fait, en Finlande, ce qui se passe, c'est que c'est pas tellement que les parents plus riches payent plus, c'est qu'ils sont mieux éduqués et qu'ils transmettent cette éducation aux enfants. En fait, les parents transmettent deux types de choses. Ils transmettent de l'éducation, et ils transmettent des aspirations, et donnent envie aux enfants de continuer. Ils disent, mais ça existe, on peut faire ça. Tandis que si tu n'es d'une famille de professions les plus élevées, eh bien, les parents ne vous disent pas que vous pouvez faire des choses, d'accord? Et donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, là, donc, c'est une partie, c'est de l'énigme finlandaise qui est résolue, c'est-à-dire de dire, mais en fait, ce qui s'est passé en Finlande, c'est que les parents qui gagnent le plus, c'est les parents les plus éduqués, et donc ils transmettent davantage à leurs enfants, et c'est pour ça que vous avez cette relation en J. Alors, on peut regarder d'autres choses, on peut contrôler aussi pour le QI, mais vous voyez, ça fait juste baisser un tout petit peu. Et par contre, l'éducation qu'on a à soi-même, là, du coup, ça fait aplatir complètement. Alors, la réforme finlandaise, qu'est-ce qu'elle a fait? En 70, alors c'est là que ça résout l'énigme finlandaise, en 70, les Finlandais, eh bien, ils ont introduit une réforme, comme ce que Crato a fait en Portugal récemment. Ils ont fait un système éducatif accessible à tout le monde. Et le système éducatif finlandais est très intelligent, parce que c'est un mélange de centraliser et de décentraliser. Les standards, c'est-à-dire là, ce qu'on demande de formation aux professeurs, c'est centralisé. Il faut faire 5 ans après le bac pour être prof et être recyclé régulièrement. Ça, c'est imposé au niveau national, d'accord ? Ensuite, l'évaluation est aussi nationale, mais on laisse l'autonomie aux établissements d'organiser le suivi des élèves et la mise en œuvre des programmes. Et donc, il y a ce mélange de centralisation et de décentralisation. Et je crois que Crato, au Portugal, a repris exactement l'idée de la réforme finlandaise. Et avant 70, il y avait beaucoup d'écoles spécialisées, on s'arrêtait souvent au certificat d'études. Et ce qu'ils ont fait en 70, c'est de généraliser ce système pour aller jusqu'au bac, de cette manière-là, eh bien, pour tout le monde. Et on voit la chose suivante, très intéressante, c'est que là, dans cette figure, je compare la probabilité d'innover pour des enfants qui sont allés à l'école avant la réforme et après la réforme. Et qu'est-ce que je vois? C'est que le ratio de la probabilité d'innover après la réforme par rapport à avant est surtout très grand pour des enfants qui n'ont pas des parents qui sont en haut de la distribution des revenus. Ce que ça a fait, la réforme de 70, c'est que, en fait, ça a permis à beaucoup d'enfants dont les parents n'étaient pas très au niveau d'éducation maximum de devenir innovateurs. C'est-à-dire que cette réforme, ce qu'elle a fait, c'est de réduire le nombre d'Einstein perdus. Elle a permis à des enfants, et si je me restreins après la réforme, à des enfants qui sont passés après la réforme, eh bien, la relation entre revenu des parents et probabilité d'innover est beaucoup aplatie. Vous voyez, c'est-à-dire que l'école est si bonne que même si j'ai des parents éduqués ou pas éduqués, ça ne fait pas une grande différence. Vous voyez? Et c'est comme ça que je résous l'énigme finlandaise. L'énigme finlandaise, c'est que j'avais cette courbe parce que je prenais également en compte beaucoup de gens qui étaient passés par l'école avant la réforme de 70. Mais si je m'étais restreint à des gens qui étaient à l'école après la réforme 70, j'aurais exactement ce que je pensais avoir au départ, c'est-à-dire une relation très plate entre le revenu des parents ou l'éducation des parents et ma probabilité d'innover. Donc vous voyez comment une réforme comme 70 est très intéressante parce qu'elle rend la croissance beaucoup plus inclusive, elle permet de réduire le nombre d'Einstein perdus, mais elle stimule la croissance parce qu'elle permet à beaucoup plus de gens d'innover. D'accord ? Alors, je veux juste... Il me reste combien, Pierre-Michel ?
Il
te
reste 8 minutes.
Ouais, ça va aller. Plus ou moins, ouais. Alors, je vous ai toujours dit que j'allais du macro au micro, d'accord ? Donc, vous voyez, déjà, je suis assez micro parce que je regarde au niveau des individus. Mais là, je ne regardais plus. Je veux regarder au niveau de la croissance, quoi. OK, qu'est-ce que ça implique pour la croissance et les politiques d'éducation ? Alors là, il y a eu un grand débat. Qu'est-ce que je fais pour stimuler la recherche ? Il y a des gens qui pensent que peu importe l'éducation, peu importe quoi que ce soit d'autre, je mets des subventions à la R&D, et puis c'est bon. Comme de la poudre magique, quoi. Et en fait, mes collègues Aksigit et Hattès ont dit non, ça marche pas comme ça. Donc d'abord, en plus, ce qu'ils ont fait par rapport au modèle très macro de Lucas Becker et de Nelson Phelps, ils ont dit non, dans l'économie, les agents ne sont pas tous les mêmes. D'abord, il y a des gens plus ou moins doués pour faire de la recherche. C'est comme ça, ils sont doués pour autre chose. Mais les capacités ne sont pas les mêmes. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je fais une hiérarchie, mais ça veut dire que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou les mêmes. Deuxièmement, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Il y a des gens qui ont le démon de la recherche, d'autres qui ne l'ont pas. Hein. Et puis, il y a des gens qui accèdent à l'éducation plus facilement que d'autres. Et puis, il y a des gens qui accèdent à des financements plus facilement que d'autres. Donc, il faut prendre toutes ces hétérogénéités en compte. On ne peut plus regarder un modèle global. On doit regarder un modèle où il y a beaucoup d'hétérogénéité entre agents. Et par exemple, on sait que la probabilité d'avoir un PhD est reliée au QI. Par exemple, eux aussi au Danemark, là c'est des données danoises, mais c'est comme en Finlande, ils font le service militaire et on a des données de QI. Mais ça peut être aussi probabilité de PhD par rapport au test à l'école primaire, secondaire. Ça serait la même chose. Tout le monde n'est pas pareil. Et alors, ce qui ressort de leur analyse, c'est que l'éducation est le principal input public à l'innovation. Ensuite viennent les subventions. Pourquoi ? Parce que, en fait, eh bien, on ne peut devenir innovateur qu'en étant un minimum éduqué. C'est évident. Enfin, c'est quasiment impossible de pas avoir d'éducation. L'éducation est une condition nécessaire pour pouvoir être innovateur. Elle n'est pas suffisante. Il faut ensuite être incité à innover et pouvoir avoir accès à des financements. Mais voyez, il y a un ordre lexicographique. Il faut d'abord l'éducation et ensuite vient les subventions à la R&D pour vous inciter. Ensuite viennent les facilités de financement pour que vous puissiez faire un lab et innover. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est qu'il hiérarchise. L'éducation, c'est le socle. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est les subventions à la R&D. Par exemple, il vous montre ici, si j'augmente le nombre de PhD, de gens que j'accepte en programme de PhD, donc ça, c'est la courbe en bleu, vous voyez que le niveau moyen QI, mais ça pourrait être un niveau moyen de test des étudiants, baisse au début. Et j'ai les gens les plus qui ont les meilleurs, et puis plus j'augmente, il faut savoir qu'il y a des rendements décroissants. Mais il faut le faire. Mais il y a des rendements décroissants à augmenter, eh bien, le nombre de gens que j'accepte en PhD, d'accord ? Alors, ce que montre, alors là, c'est trois slides en anglais, mais je les traduis en français, voilà leur conclusion. D'abord, les subventions à la R&D, eh bien, c'est moins important que l'éducation. L'éducation, c'est l'input primordial pour l'innovation. C'est le primordial, d'accord ? C'est le socle. C'est ce que je vous ai dit. La première condition nécessaire, c'est d'avoir une population éduquée. Deuxièmement, quand vous êtes un gouvernement qui avait un budget assez important, vous pouvez à la fois investir en éducation et en subvention R&D. Mais quand vous êtes très pauvre, vous devez d'abord mettre la gomme sur l'éducation. C'est la priorité. D'accord. Donc, si vous faites des recommandations, voyez le niveau de bipartite d'un pays et dites d'abord, d'avant tout, l'éducation. D'accord. Troisièmement, une société plus inégale devrait donner encore plus de poids à l'éducation parce que pour aider ceux qui ont du mal à accéder à l'école, qui ont des problèmes financiers. Donc, l'inégalité, pour réduire les inégalités et augmenter la croissance, quand vous êtes un pays très inégalitaire, comme le Brésil, par exemple, au Brésil, eh ben, vous allez recommander de rendre l'éducation accessible à tout le monde avant de leur expliquer qu'il faut subventionner la R&D. Et quatrièmement, les politiques prennent du temps et elles ne donnent pas tout en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que la R&D, évidemment, ça donne vite, mais l'éducation, c'est plus durable et plus solide et ça met un peu plus de temps. Et là, on voit trois types de politiques qui sont toutes importantes. Les subventions à la R&D, qui donnent tout de suite un effet, évidemment, parce que ça permet à des gens déjà éduqués d'être incités. C'est ça qui se passe. Donc, ils sont déjà éduqués, mais ils n'avaient pas envie. Tout d'un coup, on leur dit, mais on leur donne une carotte, faites de la recherche, ils y vont. Mais à long terme, vous voyez que l'éducation, ça met un certain temps, évidemment, quand on fait une réforme éducative, que ça donne. Hein, Stanislas, tu sais très bien que tout ce que tu fais, ça va donner, mais pas tout demain, hein, ça va prendre un certain temps. Toujours le problème avec les politiques, c'est que eux, ils sont court-termistes et nous, on est des long-termistes. Mais vous voyez que l'éducation à long terme, ça devient le plus important. Et les places à l'université. Mais vous voyez que, au début, c'est les subventions R&D qui ont un effet immédiat parce que ça incite des gens déjà capables d'être innovateurs, mais qui voulaient pas l'être de l'être. Mais l'éducation, c'est le truc à long terme qui vous porte beaucoup plus. Alors, conclusion. J'arrive à la conclusion. C'est incroyable, hein, l'eusse-tu cru. Alors. L'éducation est clé pour la croissance. À la fois, le stock de capital humain et la croissance du capital humain sont des facteurs de croissance. Deuxièmement, l'éducation supérieure est clé pour la croissance par l'innovation. Il faut non seulement bien la financer, mais bien la gouverner. Troisièmement, l'éducation des parents est clé pour devenir innovateur, à moins d'une réforme radicale du système, du type de ce qui a été fait en Finlande en 1970 et peut-être plus récemment au Portugal. Enfin, investir dans l'éducation est au moins aussi important pour l'innovation et la croissance que subventionner la recherche-développement. C'est le socle. On ne peut rien faire si on ne commence pas par l'éducation. D'accord ? Alors, je voulais juste vous parler de l'avenir du capitalisme dans les trois minutes qui restent. On parle beaucoup du modèle de capitalisme. D'accord ? D'abord, j'ai longtemps cru dans ma jeunesse qu'on pouvait sortir du capitalisme et faire autre chose. Mais j'en suis un peu revenu. Mais ça, je ne veux pas vous raconter toute ma vie, d'accord ? Donc, la question, c'est de savoir quel capitalisme. Est-ce qu'on veut un capitalisme à l'américaine, très innovant, mais très peu protecteur ? Ou est-ce qu'on veut un capitalisme à la scandinave, à la danoise, par exemple, qui est plus protecteur, mais ou européen, moins innovant? D'accord? Donc, par exemple, si on regarde en termes d'inégalité globale et le Gini ou les taux de pauvreté, évidemment, plus on a un Gini élevé, plus ça veut dire plus l'inégalité globale est grande. Ben, les États-Unis, c'est beaucoup plus inégal que l'Europe, enfin, que nos pays d'Europe, et plus inégal, donc France, Allemagne et pays scandinaves, et les taux de pauvreté sont plus, bien supérieurs aux États-Unis qui le sont en France, Allemagne et pays scandinaves. Donc, sur le plan social, ne prenez pas le modèle américain. D'accord? Mais, en termes d'innovation, les Américains dominent complètement. Là, je regarde les brevets triadiques qui sont les brevets qui sont enregistrés à l'Office américain des brevets, Office européen et Office japonais. C'est les bons brevets. Eh bien, les Américains sont très au-dessus de nous. D'accord? Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que je peux à la fois, est-ce que c'est un ou, est-ce que je dois choisir plus innovant mais moins protecteur et plus inégalitaire, ou est-ce que je peux être à la fois plus inclusif et plus innovant? Eh bien, l'éducation est un des outils qui vous permet de devenir à la fois plus innovant et plus inclusif. Pourquoi? Et donc, je reprends ce que j'ai pris tout à l'heure, mais vous le voyez à travers cette lunette-là, c'est que je vous avais dit tout à l'heure que la réforme finlandaise, elle a permis à des enfants issus de milieux défavorisés de devenir innovateurs. En faisant ça, eh bien, ça a rendu l'économie finlandaise plus innovante. Mais également, ce qu'on sait, c'est que, eh bien, quand vous investissez en éducation, eh bien, là, c'est des travaux par un collègue qui s'appelle Chetty, dont vous entendrez beaucoup parler, futur prix Nobel certainement, que plus on a des performances moyennes à l'école qui sont bonnes, plus la mobilité sociale augmente. Donc, si vous investissez dans l'école, eh bien, non seulement vous permettez à beaucoup plus de gens de devenir innovateurs, mais vous générez de la mobilité sociale. Donc, voilà une des politiques qui vous montre que c'est pas un choix, c'est pas un ou. On peut devenir plus innovant et en même temps plus inclusif. Et l'éducation est certainement une des politiques principales pour le faire. D'accord? Alors, je termine. On peut aller encore plus micro, c'est-à-dire de dire, OK, comment j'améliore? Et là, on arrive dans le champ de Stanislas. Bon, Stanislas est en charge. Donc, voilà. Et de dire, qu'est-ce que je peux faire? Alors, les économistes ont regardé des choses très... Alors là, c'est très ponctuel, on va au niveau d'une école... On regarde la taille des classes, on regarde la qualité des maîtres, on regarde le suivi des élèves, et on fait ce qu'on appelle on peut faire des expériences naturelles, c'est-à-dire on dit telle école a eu ce programme et telle autre très semblable ne l'a pas eu. Ou bien on peut faire ce qu'on appelle des expériences aléatoires, c'est-à-dire que soi-même, on randomise. On fait ce que fait Esther Duflo, qu'elle va raconter ça cet après-midi, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, on prend plusieurs écoles ou plusieurs établissements, un ensemble très homogène, et moi, c'est moi qui tire à pile ou face pour dire toi oui, toi non, toi oui, toi non, tu vois. Toi maintenant, toi plus tard. Et ça, c'est une manière encore plus... Voilà, on s'assure qu'il n'y a pas des raisons cachées pour que quelqu'un fasse mieux que l'autre. Alors là, les noms importants, c'est Josh Engris, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a 2 ans, pour ses travaux sur, notamment, les No Excuse Charter School. Il a montré qu'il y a ce qu'on appelle des écoles, c'est des écoles semi-privées, financées par des collectivités. Et ces écoles, eh bien, c'est les No Excuse, c'est discipline. Donc déjà, deux devoirs en classe. Les devoirs sont faits à l'école et pas à la maison. 3, on met l'accent sur les mathématiques et... Chez eux, l'anglais, chez nous, le français. Et ça a donné de formidables résultats. Donc, Engris a vraiment montré, et c'est ça qu'on va faire dans la réforme, parce qu'elle sera la réforme Stanislas, mais je doute que ce ne soit pas une réforme qui s'inspire beaucoup de l'expérience des charter schools. Okay? Et Chetty aussi a montré l'importance de la taille des classes et de la qualité des maîtres. Voilà des ingrédients importants. Mais ces gens-là, évidemment, c'est des études très micro. Et évidemment, après, il faut dire qu'est-ce que ça a un impact macro. Vous voyez, j'étais du très macro au très micro. Ce qui a bien marché, je crois qu'il faut s'inspirer de ce qui marche bien. L'expérience finlandaise de la réforme de 70 est une bonne expérience. L'expérience des charter schools, des No Excuse Charter Schools, est une expérience intéressante. Et la réforme portugaise, tu avais invité Crato, qui était ministre du Portugal, qui a fait remonter spectaculairement les tests PISA au Portugal. Moi, j'ai dit à Macron, il faut que tu lui donnes une chambre d'amis à l'Élysée et que tu ne te sépares jamais de lui, prends ton petit-déj avec lui, endors-toi avec lui, pas d'autre, hein, parce que tu as tout à apprendre des gens qui ont réussi à faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup, et voilà, j'ai terminé.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.